La fois passée, on avait commencé avec la question, mais au fait, quand on parle de ce thème de servir mon église locale, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? En quoi est-ce que ça concerne des gens qui n'ont peut-être pas la fonction d'ancien, etc.? À quoi ça sert? Et j'avais donné un peu les raisons pour lesquelles c'était important de pouvoir connaître toutes ces choses. Je vais ajouter encore un autre argument aujourd'hui. Eh bien, à quoi ça sert d'avoir finalement à comprendre la structure d'une église? Eh bien, c'est parce que c'est la réalité de l'église au fond. Dieu a fait en sorte que tout ce qui caractérise le vivre ensemble des individus soit marqué par un gouvernement. Partout les hommes sont rassemblés, il y a une forme de gouvernement. Que ce soit un gouvernement en termes d'État, comme pour les pays, que ce soit un gouvernement en termes de hiérarchie, de structure, avec des responsables, mais dans toutes les formes d'existence collective, il y a toujours une forme de gouvernement. Dans l'Église aussi, Dieu a voulu qu'il y ait aussi un gouvernement, qu'il y ait aussi une manière de diriger, de fonctionner. Dieu lui-même fonctionne aussi avec un gouvernement, le conseil de Dieu, parce que c'est comme ça, pour que les choses fonctionnent. Et donc, dans l'Église aussi, la forme de gouvernement de l'Église, c'est cela justement, cette structure avec les anciens, plus les diacres, qui forment ensemble, en fait, le gouvernement de l'Église. Voilà pourquoi c'est important. Parce que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, et c'est surtout aussi quelque chose qui nous aide à fonctionner pour la gloire de Dieu. Alors, nous poursuivons notre thème de servir notre église locale. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des diacres, du travail des diacres. Première structure, c'était les anciens, anciens pasteurs. Deuxième élément, le diacre. Et c'est une fonction importante dans l'Église, c'est une fonction essentielle aussi pour l'Église. Tout dépend. Dans certaines Églises, il n'y a pas de diacre. Parce que parfois, une partie de leur tâche est absorbée soit par les anciens, soit par des administrateurs qui n'ont aucun rapport avec la fonction de diacre, qui sont simplement des frères de bonne volonté qui s'occupent de l'une ou l'autre chose. Mais bibliquement parlant, il faut des diacres. Nous comprendrons pourquoi. Mais peut-être avant de poursuivre, prions d'abord, laissons tous entre les mains de Dieu qui nous conduisent dans cette méditation. Prions. Seigneur mon Dieu, je voudrais invoquer ton nom au milieu de nous encore une fois et demander, Seigneur, ton aide par le Saint-Esprit afin que non seulement moi je sois, Seigneur, la bouche, ta bouche qui dit, qui parle des choses comme toi tu le veux, qui est fidèle à ta pensée, à ton plan, à ton projet, mais aussi, Seigneur, pour nos frères, mes sœurs, mes frères, pour que ensemble, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions chacun recevoir notre part, que nous puissions chacun vivre ton évangile d'une manière pratique, concrète, Seigneur, que tu nous parles à chacun individuellement et que tu nous parles à nous tous collectivement. Seigneur, nous voulons voir ton royaume avancer. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Et nous te demandons de nous faire cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le mot diacre vient d'un mot grec, diakonos, pour ceux qui s'intéressent au grec. Mais comme de toute façon, l'évangile, comme le Nouveau Testament est écrit en grec, il y a quand même intérêt à comprendre la langue originale dans laquelle les mots sont écrits pour qu'on puisse quand même comprendre un peu, qu'on soit un peu plus près possible du sens que ce mot revêt. Le mot diacre donc vient du grec diakonos qui veut dire simplement serviteur ou assistant. Un serviteur ou assistant. Souvent aussi, assistant et serviteur, c'est parfois proche. Mais l'idée n'est pas toujours la même, parce qu'un assistant, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un, qui l'aide à faire son travail, et la dimension du serviteur a toujours cette idée de l'esclave aussi quelque part dedans. Le diacre, donc, c'est un serviteur de ses frères et de ses sœurs en Christ dans l'Église. C'est une fonction vraiment attachée à l'existence de l'Église locale. C'est vraiment une fonction du Nouveau Testament, ça n'a pas existé auparavant, et c'est normal que ça existe dans le contexte de l'Église locale. Il y a deux textes de référence sur lesquels on va se baser pour parler du travail, pour parler des diacres d'une manière générale et de leur travail. Deux textes de référence auxquels nous allons bien nous attacher aujourd'hui. D'abord, le premier texte, c'est 1 Timothée. C'est ça, hein? 1 Timothée, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 8 à 13. Oui, parfois, j'oublie. 1 Timothée, donc, 3, 8 à 13. Je vais lire. Les diacres aussi, je souligne le mot « aussi ». Le diacre aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Premier texte de référence, un texte très important. Nous allons peut-être commencer avec ce texte-là. Le deuxième texte, ça sera Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 7, mais ça, on verra après. Premier texte de référence, ici, dans 1 Timothée 3, 8 à 13, ce texte présente le travail de diacre comme étant une des plus belles fonctions, une fonction honorable qui confère au diacre fidèle un rang honorable et une grande assurance à la foi. Être diacre, c'est exercer une belle fonction. Vous avez remarqué que ils disent, et c'est pour ça que j'ai souligné au verset 8, ils disent les diacres aussi. Le mot aussi est important. Pourquoi? Parce que ce mot veut dire que les critères bibliques en rapport avec les anciens s'appliquent aussi pour les diacres. Les mêmes critères. Vous avez déjà vu quelques-uns là. Mari d'une même femme, bonne réputation, honnêteté, bonne sobriété, attaché à la foi, etc. Toutes les conditions, les critères qui concernent les anciens sont aussi à appliquer aussi pour le travail des diacres. Contrairement à ce qu'on peut donc penser, ce texte exige des diacres d'être des chrétiens spirituels, attachés à la saine parole. Contrairement à ce qu'on peut penser, les diacres, ce n'est pas que des personnes qui connaissent bien, parce qu'ils ont les mains expertes, qui se débrouillent bien avec leurs mains, que c'est des bons ouvriers, des bons travailleurs. Nous, c'est aussi des gens qui ont une assise spirituelle importante, qui est une assise spirituelle véritable. C'est-à-dire qu'ils sont capables de garder la vérité, de la conserver, de la défendre, de pouvoir dire non, 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 bibliquement parlant, ça c'est pas juste, c'est pas correct. Et des gens qui fonctionnent aussi la même exigence de conscience, une conscience pure. Vous savez, une des choses que nous protestants, nous avons gagné dans la chrétienté, dans la formulation de notre christianisme, une des choses dont on doit être véritablement fier. L'année prochaine, Dieu voulant, on va parler de 500 ans de la réforme, on essaiera de dégager tous les petits éléments qui font la richesse du protestantisme. Eh bien, j'anticipe déjà pour dire qu'une des choses dont on est vraiment fier, nous les protestants, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Faire les choses en étant conscient que je suis directement connecté avec mon Dieu. que je sais que je fais en âme et conscience, c'est ce que je dois faire, bibliquement parlant. Ça demande quelque chose d'incroyable. Je ne me range pas derrière des gens, derrière une interprétation qui me vient d'en haut, je veux dire, d'un pape, d'un cardinal, etc. Je me range à ma conscience dans ma relation avec Dieu. Souvenez-vous, Luther, devant tous ces hommes, on lui demande de se rétracter de tout ce qu'il a dit. Il dit, ma conscience me dit que, sauf si vous me prouvez le contraire, que c'est bon, ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, cette liberté de conscience, elle est importante. Les diacres, comme les anciens, sont aussi attachés à cette conscience, conscience pure. Il y a cependant deux choses qui différencient ici dans le texte la charge des anciens et la charge des diacres. Au verset 11, nous découvrons que le diaconat est autant une fonction pour les hommes que pour les femmes. On peut donc avoir des diacres et aussi des diaconesses. Alors, nous en avons d'ailleurs une qui est très célèbre dans le Nouveau Testament. Tu peux donner les textes, Romains chapitre 16, le verset 1 à 2, très appréciée de l'apôtre Paul d'ailleurs. Elle s'appelle Phoebé, je ne sais pas si vous connaissez Phoebé. Alors, regardez ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aura besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs et moi-même. » Un exemple d'une diaconesse. Je voulais juste mettre ça devant vos yeux pour que vous voyez que effectivement dans la pratique du Nouveau Testament, dans les églises déjà au premier siècle, la fonction de diacre et de diaconesse était une fonction qui était d'application. Ce qui est demandé à une femme qui exerce la fonction de diacre, c'est d'être respectable, non médisante, sobre et fidèle en tout point de vue. C'est ce que le texte dit. Je peux passer du temps à commenter ça, mais je ne vais pas perdre mon temps à le faire aussi d'un côté. Parce que, bon, allez, sincèrement, on demande à une femme de ne pas être médisante. Bon, on sait que les femmes sont très médisantes, mais entre nous, sincèrement parlant, est-ce que les hommes le sont moins ? Non, les hommes le sont aussi. On demande peut-être aux femmes d'être, honnêtes. Ben, elles sont pas si malhonnêtes que ça. Il y a aussi des hommes très malhonnêtes. C'est pour ça que je vais pas perdre mon temps à commencer à se faire des spécifications en disant, oui, cette exigence est propre aux femmes, etc. Mais alors la question pourquoi est-ce que tout d'un coup, là, pour les femmes, il y a ces conditions-là? Je crois que, ça, c'est ma réponse. Je crois que ce texte, ce verset 11, est là pour simplement mettre en exergue le fait que la femme aussi peut exercer cette fonction-là. Ce n'est pas pour commencer à faire des spéculations autour de « oui, les femmes sont différentes des hommes ». Non, c'est juste pour dire, voilà, élément important, premier élément de différence entre la fonction d'ancien et la fonction de diacre, c'est que les diacres, dans l'équipe des diacres, il peut y avoir aussi des femmes, il peut y avoir aussi des diaconesses. Et c'est important dans notre société qui pense que nous sommes souvent le christianisme est plutôt de caractère à éliminer les femmes, etc. C'est important de se rendre compte que selon le Saint-Esprit, selon sa façon de diriger les choses, il y a une place pour les hommes et il y a une place pour les femmes dans les différentes fonctions, en fonction de comment Dieu a mis les choses en place. Deuxième élément important qui se dégage de ce texte, c'est le silence d'une exigence majeure chez les anciens, à savoir l'aptitude à enseigner. Ici, pour les diacres, nulle part c'est exigé. Nulle part c'est écrit qu'il faut que les diacres soient des bons enseignants, qui soit apte à enseigner. Et donc, ça fait dire à beaucoup de théologiens, moi y compris, que pour être diacre, il ne faut pas nécessairement être un prédicateur, il ne faut pas nécessairement avoir l'aptitude à enseigner, ne pas être capable d'enseigner. Donc, quelqu'un qui peut exercer cette fonction de diacre n'est pas obligé de prêcher, enfin, n'est pas obligé d'avoir le don pour la prédication. Ça peut être quelqu'un qui juste connaît la parole, peut aussi le partager, mais pas nécessairement l'enseigner et pas nécessairement le prêcher. Donc, ce n'est pas étonnant si on a des diacres qui ne prêchent pas du tout. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas du tout quelque chose qui ne tient pas la route, mais c'est tout à fait fondé dans la parole de Dieu. Mais alors, véritablement, c'est quoi la tâche des diacres? C'est quoi finalement les tâches ou la tâche véritable des diacres? C'est là que maintenant nous allons prendre le deuxième texte de référence, Actes chapitre 6, le verset 1 au verset 7. Bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut dire, mais je voudrais quand même vous épargner de rester longtemps avec moi aujourd'hui. Vous m'avez l'air d'être complètement fatigué là, donc je vais vous épargner de rester longuement avec moi. Hier, on a eu notre rencontre pour la préparation au baptême, et j'ai perdu mon pari avec Élise puisque il était 6h40, et je lui ai dit qu'à 7h j'ai terminé. Elle m'a dit, toi, terminer à 7h, impossible. Il y a beaucoup encore des versets à voir, c'est pas possible, et j'ai perdu mon pari. Je sais que vous n'êtes pas étonnés, ça va. C'est bien. Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. L'institution des diacres est née avec les besoins nouveaux de l'Église. L'Église est naissante et les persécutions commencent. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens perdent le travail, les gens sont persécutés, les chrétiens. Vous savez que ici nous avons appris qu'avec la montée de l'islam dans l'Orient, que ce soit en Syrie, en Irak, en Iran, avait entraîné que les chrétiens dans ces régions ont fini par se regrouper pour vivre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour s'entraider. Quand vous manquez de quelque chose et que l'autre en a, on partage. Voyez? Et c'est la même chose ici. Les persécutions étaient tellement dures que les chrétiens se commençaient à se rassembler pour pouvoir être ensemble, s'entraider. Et donc là, il y a évidemment les juifs, il y a évidemment les grecs qui se réunissent, etc. Et se pose de plus en plus la question de la redistribution, en fait, des biens. De la nourriture, des habits, des endroits pour dormir, enfin, des choses concrètes comme ça. Et là, il commence à avoir des murmures, il commence à avoir des plaintes, et se pose la question, mais comment on va faire? Et évidemment, la question est posée aux responsables. La question est posée aux apôtres. Mais les apôtres ont une mission. Ils ont une mission qui est celle de faire grandir l'Église en apportant tout ce que le Seigneur veut au niveau spirituel. Mais les problèmes concrets de tous les jours, on ne doit pas les abandonner non plus. C'est alors que les apôtres vont faire cette proposition. Remarquez une chose, moi c'est quelque chose qui me frappe, au verset 3. Remarquez les conditions que les apôtres mettent pour constituer l'équipe des diacres. Choisissez parmi vous quel type de conditions. Un, des personnes dont on rend un bon témoignage. Ok ? On retrouve un peu les conditions qu'il y avait déjà dans Timothée, mais regardez ça encore. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Condition importante. Pour qui pourrait croire que les diacres, c'est des gens qu'on prend juste parce qu'il est manuel, parce qu'il est intelligent, parce qu'il sait gérer, parce qu'il sait, il a une bonne connaissance de la comptabilité. Non! On recherche des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui font preuve de sagesse. Qui recherchent la sagesse de Dieu dans tout ce qu'ils font. Donc, même si c'est des tâches directement non spirituelles, les conditions quand même pour être diacre sont avant tout d'ordre spirituel. On voit ici la frontière entre les responsabilités des apôtres et celles de la nouvelle équipe de diacres. Les apôtres ont comme responsabilité le travail de la parole de Dieu, le service de la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu. En quoi ça consiste ? À prêcher l'évangile, à enseigner, à visiter les gens pour les encourager au niveau spirituel, à faire tout le travail de cure d'âme, à former les personnes au niveau spirituel, à prier avec les gens, à les faire grandir sur le plan spirituel, à étudier la parole avec eux, etc. Vous voyez, c'est une tâche qui est déjà énorme. La tâche des diacres est une tâche qui consiste justement à côté de tout ce travail des anciens, consiste justement à prendre en charge les besoins matériels de l'Église, les besoins d'encadrement concret de la vie de tous les jours. Parfois, on a l'impression que ça a l'air rabaissant de parler de servir aux tables, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point un mauvais service de diacre entraîne des mauvaises relations entre les gens, entraîne des soucis, des conflits, des problèmes qui vont faire que les gens ne sont pas disposés du tout à écouter la parole de Dieu. Les gens ne sont plus disposés à aller en profondeur avec la démarche avec Dieu. Par contre, un très bon travail des diacres entraîne que les gens sont très contents, les gens sont heureux, les gens ont des réponses à leurs soucis, ce qui fait qu'ils sont plus à l'écoute, plus disponibles, plus enclins à aller dans la démarche spirituelle. Donc la fonction des diacres est une fonction importante. C'est pas simplement la gestion des biens, c'est pas seulement la gestion de l'argent, c'est pas seulement les services en faveur des frères et sœurs, par exemple visiter les gens pour pouvoir leur apporter un soutien financier, matériel, aller rendre des petits services aux gens, tondre la pelouse chez les personnes qui en ont besoin et aller faire la vaisselle, la lessive ou aller amener quelqu'un à l'hôpital, suivre un peu les nouvelles de quelqu'un qui est à l'hôpital, comment ça a été, on a dit quoi, le médecin a dit quoi, tiens je vais t'accompagner, faire les démarches administratives, etc. C'est pas que ça. C'est un travail qui se fait de cette façon-là, avec une tâche multiple, mais d'une manière spirituelle. Le diacre recherche que dans ce qu'il fait, un, ce soit pour la grande gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, deux, que cette personne-là puisse, à travers tout ce qu'on fait pour elle, pouvoir être ancrée dans le Seigneur. Que ça aide la personne à être encore plus dans le Seigneur. Donc, mes amis, puisque les diacres, sont confrontés aux problèmes, en fait, des gens dans l'Église, aux demandes, aux besoins des gens, vous devinez que c'est une tâche qui les expose à des situations difficiles. Les diacres sont souvent critiqués. Dans beaucoup d'églises, on les conteste dans leur travail. On conteste leur qualification dans beaucoup, dans ce qu'ils font. Ouais, mais oui, il n'est pas intelligent, lui, pourquoi il fait ça comme ça? Et pourquoi il met ça comme ça? Et pourquoi? On conteste beaucoup leur travail. Ils sont parfois mal compris. Et parfois aussi méprisés. Parce que parfois, les gens disent, mais ce n'est qu'un diacre. C'est pas un ancien. C'est pas le pasteur. Alors, ils sont parfois méprisés. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la fonction de diacre est une fonction importante dans l'Église. Parce qu'ils sont comme une cheville ouvrière qui, dans la discrétion, font énormément pour que l'Église fonctionne bien. On arrive dans l'Église, on trouve tout est en place, les choses sont là. Qui s'en occupe? Qui est là pour réfléchir à tout ça? C'est le travail des diacres. Qui est là pour se dire, bon allez, la comptabilité, l'argent, comment on va la gérer? Les équilibres, faire attention. Qui fait ça? Qui doit réfléchir? Qui doit être l'oreille attentive des anciens, du pasteur, pour dire, attention, je pense que là il y a une souffrance. Va voir telle personne, parce que je crois qu'il y a un souci là. C'est les diacres. C'est un travail d'une grande importance. En toute humilité. Alors, nous en tant qu'Église, nous avons à encourager ce travail en montrant de la considération pour leur travail, en ne critiquant pas leur travail. Mes amis, nous sommes des rois et des reines dans l'art de critiquer. Et nous ne comprenons pas que, comment dirais-je, nous ne comprenons pas que chaque fois que nous critiquons, c'est comme si nous faisons un trou, vous voyez, un trou dans notre mur, un trou pour que des renards, pour que des loups rentrent. Chaque fois que nous critiquons, nous rendons notre Église vulnérable. Et chaque fois qu'on critique le ministère de quelqu'un, on rend son ministère vulnérable parce qu'on l'expose à l'opprobre, on l'expose à la honte, on l'expose à être quelqu'un qui va être, on va douter de ses compétences en quelque sorte. Encourageons donc le travail des diacres sans les mépriser, au contraire, respecter leur travail. Quels que soient les diacres, quel que soit leur caractère, quelle que soit leur façon d'être, on doit les aimer, on doit les encourager. Parce que respecter la fonction de quelqu'un dans l'Église, c'est respecter Dieu lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu met quelqu'un dans une place, si quelqu'un remet en question cette place, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il fait? Il remet en question l'ordre de Dieu. C'est simple. Maintenant, il est vrai que ça ne doit pas ouvrir la porte aux abus, bien sûr. Bien sûr que le responsable spirituel doit aussi être capable de pouvoir se remettre en question lui-même, pouvoir se dire, attention, là je suis en train de faire des bêtises, capable de pouvoir demander pardon, capable de pouvoir corriger son attitude. Mais alors il faut un dialogue, mais un vrai dialogue, un vrai. Pas un dialogue qui se fait derrière les portes. Vous savez ça? On ferme la porte. Bonjour! Ça va bien? Mon frère, ah, je suis content. Quand on fait un peu, ça, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Vous voyez, j'appelle ça le dialogue derrière la porte. Non, si vous avez un frère qui a des responsabilités dans l'Église et que vous trouvez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas très bien ou que peut-être vous avez des reproches à lui faire, allez le voir. Dites-lui, ma sœur, moi je n'aime pas. Chaque fois que tu me réponds de cette façon-là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Moi, j'aime bien que tu me répondes bien. Parce que moi, je pense que ta fonction est comme ça. Et donc, si ta fonction est comme ça, tu dois accepter de répondre à tout le monde correctement. Ça, c'est rendre service à quelqu'un. Vous comprenez? Et pas, j'aime pas. Mais la personne est en face de toi. Ça va bien? Tu vas bien? Mais moi aussi, je vais très bien. Non. Critiquer le travail des autres est une mauvaise chose. Allons les voir. Essayons de voir aussi. Et quand quelqu'un vous répond d'une manière insatisfaisante, mais jugez de la réponse. Si elle est insatisfaisante parce que dans sa fonction, ça demande à attendre, eh bien attendez. Si elle est insatisfaisante parce que vous trouvez que, franchement, la personne ne comprend rien à rien, eh bien, demandez-lui une médiation avec quelqu'un d'autre, avec un plus grand responsable. Hein? Dites, écoutez, est-ce que moi, je ne suis pas très d'accord avec toi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller ensemble, toi et moi, aller un peu voir, par exemple, telle autre personne, tel ancien ou tel pasteur, pour discuter de ça, parce que j'ai des soucis. Eh bien, si nous fonctionnons comme ça, mes amis, on va aider nos diacres et on va aider nos responsables à aller de l'avant. Critiquer, refusons les critiques. Refusons de considérer le travail de l'autre avec nos yeux à nous. Quand quelqu'un a une responsabilité, regardons-le, respectons-le dans les responsabilités qu'il exerce, dans sa façon à lui de voir ses responsabilités. Et s'il y a un souci, parlons avec lui. Et de préférence, allons avec la Bible. C'est mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous venez me voir en disant, Gaston, tu sais, tu cries un peu trop dans tes prédications, hein? Moi, je trouve que c'est pas bien. Hein? Mais si vous amenez un argument biblique pour dire qu'on ne crie pas, je pense que si j'ai un texte biblique qui me dit ne crie pas, je dis d'accord, je ne veux plus crier. Mais si vous venez juste me dire tu cries un peu trop, je vous dirais, mais oui, mais je le fais exprès parce que j'en vois quelques-uns qui dorment. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Hein. C'est juste un exemple. Le travail de Dieu, le travail de diriger l'Église est un travail difficile. Que ce soit pour les anciens, pour le pasteur, comme pour les diacres. Aimons-les. Refusons de les critiquer. Refusons de mépriser leur travail. Aidons-les. J'ai beaucoup apprécié Marie-Luche qui avait envoyé, je ne sais pas si vous avez vu ça vous tous, cette référence. J'ai trouvé ça c'est fraternel. Ça, c'est agir comme un frère, une sœur en Christ. C'est comme ça que j'imagine la fraternité en Christ. On n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour se prendre dans les bras. On est là pour s'entourer, pour s'entraider, pour aller de l'avant ensemble, peu importe nos caractères et nos différences. Que Dieu nous aide à faire ce travail-là. Je vais juste terminer. Remarquez le verset 7. Au verset 7, vous remarquez l'impact d'un bon travail. Lorsque les diacres sont à leur place, lorsque les anciens sont à leur place, lorsque tout le monde travaille comme il faut, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu se répand de plus en plus. Il y a un impact. Un impact pas seulement à l'intérieur de l'Église, mais un impact à l'extérieur de l'Église. Voyez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, pour que nous apprenions à travailler ensemble, à nous apprécier, à nous encourager, pas à nous détruire, pas à être là des fossoyeurs les uns des autres, parce que nous faisons des trous, nous ouvrons des brèches, et Satan vient s'amuser au milieu de nous, il vient danser avec nous, il vient foutre le boxon au milieu de nous. Mais lorsque nous refusons, nous défendons les autres. Quand, une fois ici au parking, je ne vais pas citer qui, quelqu'un était en train de me critiquer, ici au parking, et quelqu'un d'autre s'est mis à me défendre. Et l'autre a renoncé à me critiquer. Il a dit, oui, tu as peut-être raison. J'ai trouvé ça génial. Vous voyez, c'est ça la fraternité. Il ne s'est pas dit, oui, c'est vrai, toi, oui, c'est vrai. Non, non, stop. Non, tu n'as pas raison. Ce que tu dis là n'est pas correct. Voyez, apprenons à nous défendre les uns les autres. On vient te dire quelque chose contre l'autre. Non. Non, c'est ton frère quand même. C'est ton frère. Alors, nous voyons donc au verset 7 que, effectivement, quand on est ensemble et qu'on va dans la bonne direction, eh bien, il y a un impact puissant dans la parole de Dieu. Je vais juste ajouter un détail, parce que c'est plutôt par rapport à nos réalités d'église, il faut que je le dise absolument, c'est que nous avons un conseil de diacre, nous avons la fonction de diacre qui existe, mais à côté de la fonction de diacre, il y a la fonction de l'ASBL. Dans nos églises, c'est la réalité, nous avons la fonction de l'ASBL, dont la mission est principalement la gestion des bâtiments, du bâtiment de l'église, mais par extension, puisque c'est l'inter, l'interface par rapport à l'autorité, à tout ce qu'on peut faire comme démarche administrative. Alors parfois aussi, la SBL s'occupe aussi par exemple des salaires, s'occupe par exemple de la gestion des banques, etc., etc. Parce que ça, c'est les réalités, parce que voilà, on est confronté à un monde qui n'est pas toujours structuré comme l'Église est structurée. Mais la fonction de la SBL est une fonction qui est à côté de la fonction de diacre. Les membres de la SBL ne sont pas nommés selon des critères, des mêmes critères que les diacres, mais évidemment ils sont choisis, c'est d'abord avant tout des membres de l'Église, on doit s'assurer qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qu'ils sont membres de l'Église, etc. On ne va pas prendre non plus les gens de l'extérieur ou des non-chrétiens pour faire ce travail-là. Je voulais juste signaler cela pour que nous puissions comprendre que, en fait, nous avons aussi cette adaptation-là par rapport à la réalité avec laquelle nous vivons. Voilà. J'en ai fini avec la fonction des responsables en termes de direction d'église. Et maintenant, nous allons prochainement aborder les différents ministères qu'il y a dans l'église, les manières dont on peut les travailler, on peut fonctionner avec ça. Et j'espère que nous allons pouvoir avancer ensemble de cette façon-là. Nous sommes donc à la recherche des anciens. Nous voulons toujours étoffer notre équipe de diacres. Vous savez, il y en avait 7, hein. Nous, on n'est pas encore à 7, donc il y a de la place, façon de parler. Bon, donc nous cherchons toujours, nous regardons toujours aussi pour la fonction des diacres. Et vous commencez à comprendre maintenant de plus en plus comment on doit fonctionner, c'est-à-dire qu'on doit regarder, on ne doit pas élire, on ne doit pas faire campagne, voilà, c'est ce que je veux dire. Personne ne doit faire campagne pour lui. Comment je veux dire? Votez-moi, je suis un bon diacre. Non, on ne doit pas faire campagne. Mais il faudrait que, petit à petit, maintenant, nous apprenions à observer les autres, à nous observer les uns les autres, et voir s'il y a des qualités qui sont propres à tout ce qui est donné, qui se manifestent, qui se retrouvent. Et il ne faut pas non plus nécessairement que ça soit tous les critères, hein, vous savez. Quand il y a déjà 2-3 critères qui commencent à apparaître, c'est déjà un bon signe, hein. Comprenez? Il ne faut pas nécessairement que ce soit tous les critères, parce que certains critères vont aussi venir progressivement. Mais apprenons à nous observer, et quand le moment viendra, par la grâce de Dieu, puissions-nous trouver, lever une armée ici des fonctionnaires du Seigneur qui vont être à la hauteur de la tâche et des défis d'aujourd'hui pour l'Église. Voilà, ça c'est vraiment mon vœu le plus cher et j'espère que nous pouvons ancrer tout cela dans la parole de Dieu. Prions pour nos responsables, prions aussi pour que le Seigneur ajoute des personnes en plus dans l'Église, prions pour que nous ayons de plus en plus des gens prêts pour ce genre de fonctions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, qui nous montre le cadre dans lequel nous devons évoluer et progresser. Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur, et te demander que tu nous guides et que tu nous aides à construire cette église pour ta plus grande gloire, à nous aider à vraiment aller de l'avant et à faire ce travail vraiment de manière à avoir un impact, non seulement dans nos vies personnelles, non seulement dans notre vie communautaire dans l'Église, mais aussi et surtout dans notre environnement, dans Otigny et dans toute cette région. Seigneur, conduis-nous, aide-nous, soutiens-nous, éclaire-nous encore, qualifie-nous davantage au nom de Jésus. Amen.